Mercredi 12 septembre 2011, 18h, nous sommes à la cité Le Grand Parc à Bordeaux. Bienvenue aux passagers du Tram Travelling, un plan séquence radiophonique qui va nous mener à Bègles, à l'autre bout de la ligne C du tram, avec entre les deux une traversée de Bordeaux. Le Grand Parc Bègles, quel rapport, à part le boa du tramway qui serpente de l'un à l'autre? Eh bien, c'est la question, justement. Et le seul moyen d'y répondre, ou de tenter des hypothèses de réponse, c'est de faire un bout de chemin ensemble, habitants du Grand Parc, de Bègles, ou comme nous, de la planète Mars. Pour commencer sur ce quai, avant d'embarquer, savoir d'où l'on part, savoir d'où l'on parle. Jacques, bonjour.
Bonjour.
Tu habites la cité du Grand Parc. Alors peut-être pour commencer, nous la décrire avec tes mots.
Allez, le Grand Parc, eh bien, que, comme pour certains que j'ai vu construire et que j'ai vu quand il n'était que des grands jardins et quelquefois des espaces un petit peu inondés. Et puis de part et d'autre, eh bien, d'un côté il y avait donc cet espace du Grand Parc, et puis de l'autre côté il y avait ce que l'on appelait la grenouillère. C'était un lieu où stationnaient des gens qui faisaient récupération, réparation de voitures. C'était un petit peu du bric-à-brac. Là en face où nous sommes actuellement, il y avait un restaurant qui a été démoli, un restaurant qui était assez bien connu et où on venait quand nous avions des bons repas à faire. Ça remonte aux années, encore dans les années 70 et quelques, 73, 74, ce qui existait encore. Le Grand Parc avait déjà commencé à grandir. Ces immeubles étaient déjà à la hauteur où ils sont. Voilà.
Les constructions... La cité s'est construite en une seule tranche ou en plusieurs étapes?
Une évolution, sans presque d'arrêt. La partie... voirie, urbanisme a été faite en premier, mais ensuite et assez rapidement, les bâtiments que nous avons côté avenue Milcounor ont été construits. La tour, les bâtiments, celui-ci, je pense que celui-là. Alors l'ordre exact, je ne m'en rappelle plus parfaitement, mais disons que ils ont commencé par là. Voilà. Et ensuite tout ça s'est étendu jusque vers la rue Mandron pour finir vers la tour R qui se trouve devant le boulevard en face de Fiat. Un des derniers bâtiments, sauf la tour M, Mozart, qui a été construite beaucoup plus tard, dans les années 80.
À l'époque de sa construction, j'imagine que cette cité était vraiment complètement en périphérie de Bordeaux.
Pas complètement. Le quartier de Bordeaux, eh bien, il y avait quand même... entre le boulevard et l'avenue Milcounor, effectivement, c'était un peu pas no man's land complètement, hein, parce que derrière ici, il y avait certain nombre de maisons. Là où se trouve la clinique et tout ça, c'était plein de petites maisons. Et ici, là aussi, c'était habité. Donc c'était un espace jardin, complètement en sortie de la rue Mandron, de l'avenue Milcounor, voilà.
On est maintenant complètement englobé dans le tissu urbain de Bordeaux. L'environnement donc, de cette cité a complètement changé. À quel moment est-ce qu'on a vu cette urbanisation vraiment s'établir tout autour de manière très, très présente, comme on le voit aujourd'hui?
Dans les années 70-80. 70-80, entre 60 et 70, ça commençait ici, mais ça n'était pas très, très urbanisé comme ça. 70-80, tellement bien qu'à un moment donné, il y avait un grand projet qui devait relier le centre de Bordeaux au lac, et le projet prévoyait une grande avenue de 85 mètres de large. La retrécie, elle est restée à ce qu'elle est actuellement.
Voilà. Effectivement, elle ne fait pas 85 mètres. Comment est l'ambiance, le voisinage à l'intérieur de cette cité? Tout le monde connaît tout le monde ou chacun chez soi?
Alors, je ne serai pas celui qui est le plus exercé pour dire comment ça se passe, parce que j'y suis très peu. J'y ai habité pendant un certain temps et j'habite à côté du Grand Parc. Si je participe à l'opération, c'est parce que j'ai voulu m'investir donc dans cette affaire du Grand Parc et des bateaux. Je pense, et pour connaître les gens qui y habitent, je pense que pour la plupart, ils s'y trouvent bien. Ils ont de bons contacts. Comme partout, eh bien, il y a du bon et du moins bon.
Voilà. Stéphane Marolo, bonjour.
Bonjour.
Tu es directeur du centre social de Grand Parc. J'imagine que tu en connais bien la population. Alors peut-être en écho à la question que je posais à l'instant à Jacques, dans cette cité, il y a un voisinage qui est très chaleureux, tout le monde se connaît, ou il y a un petit peu des clivages, des gens qui ne se parlent pas, des problématiques de voisinage?
Alors oui, ce qui est particulier sur le Grand Parc, c'est qu'on a affaire quand même à une cité qui est globalement agréable à vivre. Je parle des espaces publics, puisqu'il y a beaucoup d'espaces verts et de jardinage. Enfin, d'espaces verts, je veux dire, de lieux où vraiment on peut se promener, etc. Ça présente quand même un inconvénient, c'est que les immeubles d'habitation sont relativement éloignés les uns des autres. Donc c'est agréable à vivre d'un certain côté, et en même temps, ça peut amener les habitants à rester un petit peu retranchés les uns par rapport aux autres. D'autre part, on a une population qui connaît un certain nombre de caractéristiques particulières, c'est-à-dire qu'on a des personnes âgées qui sont assez nombreuses et qui sont donc potentiellement en situation d'avoir des difficultés en termes de mobilité ou qui peuvent être isolées, vivre seules chez elles. On a aussi de très nombreuses familles monoparentales et donc avec une difficulté à vivre qui est importante et toujours le risque de l'isolement aussi qui est important. Donc on a un peu les deux phénomènes, c'est-à-dire à la fois des personnes qui sont systématiquement au risque de l'isolement et puis qui en même temps sont bien obligés de développer des liens de solidarité. Mais ça ne se fait pas aussi simplement que dans un petit village resserré. Là, on est quand même dans un espace urbain qui peut quand même éloigner. Il y a une grande difficulté sur le quartier, c'est à trouver un cœur de quartier, avoir un véritable centre du quartier. Un quartier bien équipé, c'est vrai, mais il est difficile d'y trouver une âme. Il faut vraiment l'habiter, le vivre, s'y déplacer souvent pour pouvoir réussir à avoir ses repères.
Alors à propos d'isolement, justement, dans un instant, on va prendre le tram, la ligne C. J'imagine que ce tram n'existait pas au moment de la construction de cette cité. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça l'a désenclavé par rapport au reste de la ville? Est-ce que ça a facilité la circulation pour ces personnes à mobilité réduite que tu évoquais à l'instant? Est-ce que ça a été un élément très positif pour la cité? Ou au contraire, une sorte de siphon, peut-être, qui la vide de ses habitants le jour, parce que les gens vont travailler? Stéphane Marolo.
Alors là, en réalité, je dirais qu'il ne s'agit pas d'une révolution qui s'est produite du jour au lendemain. À partir du moment où le tram est arrivé, il a fallu beaucoup de temps avant que la population vraiment en saisisse toutes les possibilités. Là, on va le vivre aujourd'hui. C'est une expérience nouvelle pour beaucoup que de faire le déplacement entre le quartier du Grand Parc et Bègles, par exemple. Donc les habitudes d'utilisation du tram ne sont pas encore complètement prises, il y a tout un travail à faire encore. Il faut absolument que les lieux de vie, les lieux de réalisation d'un certain nombre d'activités soient mieux repérés pour que les gens comprennent et repèrent mieux l'utilité du tram. Mais globalement, les premiers retours qu'on a des habitants, c'est quand même une relation au centre-ville qui reste néanmoins plus forte. Mais toutes les questions de mobilité ne sont pas réglées parce qu'il y a entre autres un certain nombre d'usagers, d'habitants qui se plaignent que dans certains espaces du quartier, par exemple quand on est à l'autre extrémité du quartier du Grand Parc, on est loin du tram et les liaisons entre ces espaces du quartier et le tram sont difficiles à appréhender.
Quels sont selon toi les grands enjeux urbanistiques pour ce quartier ?
Alors la question qui se pose pour le quartier du Grand Parc, quartier d'habitat social, donc toujours au risque d'être stigmatisé, c'est de se trouver d'une certaine manière relié physiquement certes avec la ville, mais pas sociologiquement. Donc il s'agit bien d'amener ce quartier à faire partie intégrante de la ville dans ses usages. D'où l'intérêt pour nous, par exemple, et toute la symbolique est là, de la mobilisation qu'on mène actuellement sur le quartier autour de la question de la salle des fêtes. Parce que voilà un équipement qui est fermé depuis plus d'une quinzaine d'années et qui pourrait permettre au quartier de rayonner, et non seulement, bien sûr, dans l'intérêt des habitants eux-mêmes, mais aussi d'être utile à l'ensemble des Bordelais pour que les Bordelais viennent investir cet espace-là de manière positive.
On a à côté de nous Ghislaine, qui est une habitante de Bègles. Ghislaine, est-ce Bonjour. Que c'est la première fois que tu viens à Grand Parc ?
Oh, quand même pas, je suis née à Bordeaux. J'ai même failli habiter à proximité dans mon enfance. Sauf que ma mère n'avait pas voulu quitter son quartier. Et son quartier, c'était à l'autre bout de Bordeaux. C'était juste à côté de Bègles, un quartier qui s'appelle Belsier, pas loin des abattoirs où vous êtes intervenu. Et le Grand Parc, pour nous, c'était un peu le bout du monde, d'une ville extérieure à la ville. Donc complètement différente de l'habitat qu'on pouvait avoir dans nos petits quartiers de l'autre côté. Donc bon, je connais quand même le Grand Parc, mais c'est un endroit où je ne rentre pas très souvent. Sauf en cas de besoin, il y a l'inspection d'académie qui est pas loin, il y a des choses qui sont pas loin. Mais sinon, c'est pas un quartier où je vais pour le plaisir, par exemple. surtout depuis la fermeture de la salle des fêtes.
Alors on va maintenant rentrer dans le tram, le temps de s'installer dans nos sièges. On va occuper la dernière partie, le dernier wagon qu'on a un peu réservé pour pouvoir continuer cette conversation, ce travelling radio. Je me tais un petit peu le temps que vous captiez l'ambiance de cette rentrée dans le tram. Alors, voilà rentré dans le tram. J'espère que Guy Lenoir n'est pas loin. Je voudrais qu'il soit à proximité. On va peut-être continuer la conversation avec toi, Guy, si tu arrives à arriver jusqu'ici.
Oui.
Bonjour, Guy.
Oui, bonsoir.
Assieds-toi à côté de moi, si tu veux bien.
Oui, ok.
Alors, Guy, tu t'occupes d'une structure qui s'appelle MC2A.
Oui, ça veut dire Migration Culturelle Aquitaine-Afrique.
Ça veut dire qu'elle est particulièrement attentive au métissage culturel.
On travaille sur l'interculturalité de ceci dans cette ville. Elle est très très présente puisque, et dans ce quartier particulièrement, on va dire qu'il y a 30-40 nationalités représentées dans l'histoire du Grand Parc. Donc c'est intéressant de bosser avec tous ces gens-là et c'est très passionnant, voilà.
La multiculturalité, elle n'est pas forcément toujours très... comment dire, visible, très si. Présente, très encouragée dans tous les quartiers de Bordeaux. Est-ce qu'elle l'est plus particulièrement dans ce quartier-ci?
Oui, elle est très présente. Et elle est très, bon, je dirais, comparativement à certaines régions françaises, ça se passe très très bien, je veux dire, l'interculturalité. C'est-à-dire qu'on a une tradition avec le continent africain qui vieille comme l'esclavage, comme la traite des Noirs. Enfin, c'est pas une des meilleures choses qui est faite Bordeaux, mais enfin, on vit ça aussi, je veux dire, au niveau de l'histoire du patrimoine. Donc, je sais pas, en Gironde, j'ai dû avoir 30 000, 40 000... Noirs, voilà. Et puis nombre de Maghrébins, de Marocains, etc., entre autres.
Alors j'en profite pour dire à tous les passagers de ce tram que nous sommes en train de réaliser une émission de radio, ça s'appelle un travelling radio dans le cadre d'Evento, Biennale Internationale d'Art Contemporain. On est en train de partir de la cité du Grand Parc et on est en train de se rendre à Bègles à l'instant en utilisant cette ligne C du tramway, à la fois comme moyen de transport et en même temps comme lieu de cette discussion. On parlait tout à l'heure d'un enjeu, Guy, sur cette salle des fêtes. Stéphane en parlait notamment. Quel est l'enjeu à propos de cette salle des fêtes au Grand Parc?
L'enjeu, c'est de la rouvrir. C'est une salle qui est fermée depuis plus d'une quinzaine d'années, au départ pour des questions d'amiante, mais peut-être de nuisances sonores par rapport à un voisinage un peu petit bourgeois d'une époque qui peut-être... Finalement, du fait de la mixité sociale, tout ça s'est un peu aplani. Il y a nécessité, 15 ans après, de la réouvrir de la même manière que la piscine a été réouverte il y a quelques années. La municipalité actuelle se trouve face à une réalité qui est celle du quartier, qui est aussi celle de la commune, car il n'y a pas dans la commune de Bordeaux de salle de cette capacité pour accueillir des manifestations musicales, artistiques, de à la fois de qualité nationale ou internationale, et aussi de quartier. C'est-à-dire qu'on a besoin de lieux d'expression populaire ou esthétique ou musicale, tout ce que vous voudrez, de manière à ce que ce soit un vrai pôle culturel du quartier de Bordeaux.
Ce pôle culturel, il n'est pas évidemment uniquement destiné aux habitants de proximité, il est destiné à tous les habitants de Bordeaux, comme le festival.
Absolument, parce que Bordeaux ne possède aucune salle communale, et ça serait vraiment une nouveauté que de réhabiliter cette salle à des fins communales, oui, populaires et de quartier, pour les associations en général, mais pas forcément aussi pour des manifestations comme celle des Vento, par exemple.
Alors on a avec nous aussi sur ce travelling Guillemette Bardinet. Bonjour Guillemette.
Bonjour.
Alors tu es journaliste, tu travailles je crois pour le journal Sud-Ouest. Et tu connais bien ces problématiques urbaines de lecture de la ville, de clivage de la ville. Je te propose qu'on en parle tout au long de ce trajet qui va nous mener jusqu'à Bègles, jusqu'au Terre-Neuve. On va pas tarder à traverser le quartier des Chartrons, un petit peu plus loin peut-être dans notre chemin.
On est là.
On y est. Eh bien, un quartier qui est un petit peu emblématique, qui a beaucoup changé, j'imagine, dans sa sociologie, dans son aspect. Peut-être quelque chose qui est en train d'attendre le quartier Saint-Michel en ce moment, dont on sait qu'il est promis à de grandes transformations. Alors peut-être si tu veux bien nous raconter, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as vu changer ce quartier au cours des dernières années?
C'est-à-dire que ce quartier, moi j'y ai habité il y a 25 ans, ça n'a rien à voir avec ce que c'était aujourd'hui. C'était un quartier dans lequel les appartements coûtaient pas cher, l'immobilier était pas cher, et en même temps il y avait toutes les maisons de négoce qui étaient là. Et puis petit à petit, c'est un quartier qui s'est boboisé, vraiment. Les bobos ont racheté les anciens chais pour y faire des lofts. Et en même temps, il s'est étendu. C'est-à-dire que les Chartrons, c'est en même temps un quartier qui a toujours touché le Grand Parc. Donc il y a le cœur des Chartrons, dans lequel tout le monde a envie d'habiter, qui va du cours de la Martinique au cours de Xavier Arnauzan, en passant par les quais, qui à l'époque aussi ne valaient rien parce qu'il n'y avait pas le tram, que les façades étaient noires. Et en même temps, il y a le fond du quartier des Chartrons, qui touche le Grand Parc, dans lequel les gens aimaient moins aller. Les gens qui scolarisent leurs enfants aux Chartrons, ils aiment être dans le cœur des Chartrons, mettre leurs enfants dans l'école Montgolfier. Et dès qu'ils ont leurs enfants qui doivent aller à l'école du Grand Parc, souvent ils font du contournement scolaire. D'où, voilà. Sauf qu'au Grand Parc, il y a une super école qui a ouvert, qui a un projet pédagogique particulier, qui était une école qui s'appelle Clisten, qui du coup, tout d'un coup, a fait que même les gens même les bobos, ils ont eu envie d'y aller. Enfin, il y a eu un petit peu du mélange. Voilà.
Quelle est la frontière, au fond, entre Grand Parc et ce quartier des Chartrons? Est-ce qu'il y a une avenue? Est-ce qu'il y a une frontière symbolique, quelque part? Ou est-ce que c'est plus diffus, plus perméable que ça, selon toi?
Au niveau des quais, où je dirais que c'est le cours du Médoc, voilà, qui représente vraiment la frontière. C'est-à-dire qu'avant, on est plus sur le cœur, après, voilà, le cours du Médoc, j'appellerais la frontière.
Écoute, on va beaucoup parler, si tu veux bien, de ces frontières symboliques, hein, souvent entre différents quartiers de la ville. Et peut-être d'abord, justement, sur cette organisation de Bordeaux. Bordeaux n'est pas organisé en arrondissement, mais en quartiers. Ils sont sans doute très différents les uns des autres. Est-ce que tu notes, toi, des antagonismes entre quartiers voisins?
Oui, bien sûr. Un habitant de Saint-Michel et un habitant de Codéran, c'est pas tout à fait pareil. Ça se rencontre pas souvent. Les habitants de Codéran vont à Saint-Michel au puce pour s'acheter des beaux meubles. Les habitants de Saint-Michel, je suis pas sûre qu'ils aillent très souvent à Codéran.
Non, pas vraiment.
Voilà, ça se mélange pas. Ouais, on vit. Voilà, voilà. Mais on vit beaucoup à Bordeaux. On vit beaucoup dans son quartier. Et vraiment, il y a des quartiers très populaires. Et Codéran est un quartier très résidentiel et très bourgeois. Je crois qu'il y a Codéran, Le Bousquin, qui ont été des villes annexées à Bordeaux pour des histoires électorales en plus, ne sont pas Saint-Michel, qui n'est pas les Chartrons, qui n'est pas Saint-Paul, qui n'est pas le quartier Péberlan. Voilà, les gens vivent beaucoup, beaucoup dans leur quartier, d'autant plus que le centre-ville est quand même pas très... Enfin, le cœur de ville, il y a finalement assez peu d'habitants, très peu de familles, parce qu'il y a le tram... Mais il n'y a pas de possibilité d'avoir de voiture, ou de moins en moins. Donc en fait, voilà. Donc le tram a également redessiné la ville dans ce sens-là.
Alors pour un petit peu mieux savoir où nous sommes, je vous propose qu'on écoute deux descripteurs de paysages qui sont juste à côté de nous, de part et d'autre de notre voiture du tram. Et je laisse Tony Regnault, notre perchman, capter leur description en stéréo.
Gonflé à l'hélium, des chouchous, barba papa, de la guimauve. Et on arrive, place des quinconces, avec une personne qui vend aussi des dessins, qui doit faire lui-même, des passants. Deux petites personnes très mignonnes, là, qui sont en train de marcher et qui discutent. Les gens avec leur sac à dos. Et puis ici, finalement, on arrive à un endroit qui est assez passant. Le marchand de bonbons avec les bonbons Haribo, l'office de tourisme qui a dû être rénové récemment, qui met les pierres sur un blanc étincelant. Ça contraste d'ailleurs avec les magnifiques platanes qu'on a devant nos yeux, qui sont déjà très très hauts, et sous lesquels les gens attendent le train.
Nous sommes actuellement à l'arrêt de tram Quinconce. Je dis bonjour à tous les visiteurs qui nous rejoignent. C'est une station en général, beaucoup de visiteurs, beaucoup d'usagers du tram l'utilisent. Donc bienvenue, vous êtes en train d'écouter un travelling radio par Radio Grenouille dans le cadre d'Evento Biennale International d'Art Urbain. On est ici, place des Quinconce, un espace assez important, je crois une place de 12 hectares, un record en Europe d'espace en ville. Au XVIIIe siècle, on était capable de créer une place de 12 hectares. Aujourd'hui, l'espace public est de plus en plus étroit, de plus en plus privatisé. Guillemette, peut-être sur cette fragmentation symbolique de la ville, sur ces espaces publics qui s'étrécissent au fond, qu'on a de plus en plus de mal à créer, à offrir aux Bordelais.
Alors, Ici, cette place, avant, il y avait un château. C'est pour ça qu'il y a autant de vide. C'était l'emplacement du château Trompette. Donc, c'était pas du tout un lieu vide au départ. Mais à Bordeaux, je trouve que ça, pour le coup, c'est pas très vrai. Parce que Bordeaux est une ville qui a l'absolu culte du vide. On le dit toujours, la place des Quinquants, c'est la plus grande place d'Europe. Mais de la même manière que le tram, que les voitures ne passent plus devant la cathédrale, mais c'est une place qui est devenue excessivement vide. La place de la Bourse, qui est maintenant emblématique de Bordeaux, c'est une place vide. Les quais, c'est très beau, il y a des gens qui courent, mais enfin la nuit, c'est vide. Et Bordeaux est quand même un endroit, alors à part dans les vieilles ruelles du vieux Bordeaux, parce qu'on ne peut pas changer tout le Bordeaux 18e, on ne peut rien y changer. Et tant mieux, et 17e, et 16e, et 15e. Mais sinon, enfin voilà, Bordeaux est quand même une ville dans laquelle il y a de grandes places et il y a du vide.
Sur les quais, lieu emblématique de Bordeaux, on retourne à une description de paysage en stéréo.
Bordeaux, c'est tout en cercle. Donc là, j'aperçois les chartrons, je vois le pont d'Aquitaine, je vois des grues, parce que Bordeaux, c'est en construction aussi. On aperçoit la rive droite, avec la Banque Populaire. Je vois le bout de l'église, rive droite, l'église...
Apparemment, des hommes sont habillés en rose sur la fontaine. Ils sont enrubannés de rose, peut-être pour Cydaction, parce que ça semble être les rubans de Cydaction. En tout cas, ça fait son effet.
Pardon. Alors, retour à cette conversation, à ce tram-travelling. On est actuellement en place de la Bourse, la vitrine de Bordeaux, lieu très emblématique de cette architecture du XVIIIe siècle que la mairie a souhaité rénover d'une manière telle qu'elle attire un maximum de touristes, apparemment. Ce tram que nous utilisons, il est utilisé par tous les Bordelais pour se déplacer, pour leur travail, mais aussi peut-être parfois pour aller faire un tour chez les autres. En passant, vite fait comme ça, un peu en touriste. Est-ce que, Guillemette, tu n'as pas l'impression que parfois, c'est pas quelque chose qui provoque de la rencontre, mais plutôt de la tension, en fait ? Je propose à Guillemette, mais peut-être Guy, par exemple, ou Ghislaine, sur cette question. Ghislaine Girard.
Moi, j'ai l'impression que les gens ne vont pas tellement à la rencontre, justement, les uns des autres. Ils restent enfermés dans leur quartier, dans leur banlieue. Enfin, moi, j'étais habituée à une vie assez remuante, mouvante. Et quand je suis arrivée à Belle, j'étais surprise de voir des voisines assez jeunes, qui avaient à l'époque une trentaine d'années, et qui ne savaient pas se rendre en ville à Bordeaux. Peut-être que maintenant, effectivement, les choses évoluent, mais je ne suis pas sûre que les jeunes, en dehors de quelques places comme ça, très définies, quelques lieux très définis, se rendent tellement dans différents quartiers de Bordeaux. Mais ils vont se rendre évidemment à Saint-Michel, je pense à mes gens des cités de Bègle, ils vont se rendre à Saint-Michel parce qu'il y a toute une vie commerçante, etc. Mais ce n'est pas un lieu de loisirs. Ils seront de faire les courses, retrouver des produits du bled, etc. Et tout ça. Je ne sais pas forcément vers le miroir d'eau qu'ils vont venir. Ils vont venir plutôt vers des lieux, les centres commerciaux de Bègle, par exemple.
Alors, je vous propose maintenant qu'on entende une intervention du professeur Jérémy Garniaud, maître de circonférence en cryptogéographie urbaine. Quelques mots sur sa perception de l'environnement urbain bordelais.
Eh bien, bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors, pour cette leçon exceptionnelle, puisque vous le savez, ça fait une semaine qu'on est là avec mon laboratoire de recherche du centre de recherche en sciences absconses du territoire et que nous prodiguons des leçons de géographie absurde. Donc pour cette leçon exceptionnelle dans la forme, mais peut-être un peu aussi dans le fond, j'avais prévu de partager avec vous les réflexions et les avancées de ce grand auteur qu'est Henri Laborie. J'ai eu récemment l'occasion de me replonger dans une œuvre assez atypique du parcours du biologiste, L'homme et la ville. Certains passages sont particulièrement instructifs et éclairants. Alors tenez par exemple sur la ville en tant qu'effecteur. Page 22. Comprise ainsi, la ville devient elle-même un effecteur puisqu'elle agite en maintenant la structure du groupe humain. Ce groupe humain devient alors le facteur de la ville, car sans groupe humain pour la construire, pour l'habiter, pour l'utiliser, pas de ville. Avec un renvoi à une figure 4 passionnante que je ne suis pas en mesure de partager avec vous, mais alors ce serait très intéressant qu'on ait l'occasion de revenir dessus. Je continue. À ce niveau d'organisation de l'ensemble dynamique, nous voyons déjà apparaître une rétroaction de la ville sur le groupe humain. Suivant la structure de la ville, celle du groupe humain sera consolidée ou fragilisée puisqu'un des facteurs de la structuration du groupe humain sera la structure même de la ville. Un ouvrage passionnant, alors on aurait pu aussi s'enthousiasmer pour d'autres essais remarquables de l'auteur. tels que l'homme imaginant, essai de biologie politique, ou alors encore l'agressivité détournée, introduction à une biologie du comportement social, autant d'œuvres rayonnantes d'innovation et d'empathie intellectuelle qui auraient sans aucun doute nourri la mise au point de ce modèle de simulation qui nous occupe depuis quelques jours. Alors de plus, ce tramway aurait été le cadre idéal pour mettre en pratique, sans plus de prolégomènes ni d'ailleurs de prémices, ce que nous venons de voir, en activant le modèle de planification de la sérendipité des bordures urbaines, vu sous l'angle de la ségrégation du corps social. Bon, pour tout vous dire, le cœur n'y est pas. Mes récentes déconvenues professionnelles m'ont amené de façon un peu abrupte à reconsidérer la pertinence de l'étude que je mène ici au nom du CRESAT, le Centre de Recherche en Sciences Abscons du Territoire. Et même au-delà, c'est un peu tout mon parcours qui est remis en question. Alors si vous êtes d'accord, j'aimerais plutôt m'autoriser une pause, une forme de bilan de mi-parcours. C'est une démarche qui, de toute façon, est toujours extrêmement saine. J'ai fondé le CRESAT il y a maintenant 8 ans. J'étais alors un jeune chercheur plein d'ambition, fraîchement titulaire d'une thèse, brillamment soutenu sur l'ambiance des affects perçus dans la ville sensible, et dont le sous-titre était l'exemple de l'hypersente montpelliérain. Le CRESAT est né d'une idée simple, fonder un laboratoire commun, non pas sur une similarité de parcours, de discipline ou de tradition, mais sur la vision partagée d'une audace rigoureuse et du maintien d'axes thématiques pertinents, créatifs, cohérents et surtout transparents. Notre premier grand chantier a été la mise en œuvre d'une étude de faisabilité de la réutilisation de la fumée volcanique comme source d'énergie durable et renouvelable, particulièrement aux abords des villes de plus d'un million d'habitants. Eh bien, le succès et l'écho rencontré par ces premiers travaux, notamment l'approche modélisatrice de la fumigation participative, a été le coup d'envoi de plusieurs années de réussite incontestable du CRESAT. Et moi, directeur du laboratoire, estimé, jalousé par mes pairs, j'étais aux anges. Alors, j'imagine que ça doit être dur à croire pour vous qui me voyez dans ce moment de doute et de flottement. Pourtant, c'est avec cette assurance que j'ai abordé le territoire bordelais. Mais l'injonction qui m'a été faite de céder la gestion du travail de terrain à mon doctorant m'a peut-être plus touché que ce que j'aurais cru possible. À bien y réfléchir, il me semble que l'évolution de mes activités professionnelles, qui comprennent toujours plus d'administration et de coordination, en quelque sorte m'éloigne de ce que je considère comme le cœur de mon métier, le terrain. Eh bien, c'est là où le bât blesse, et je crois qu'il est urgent pour moi de m'y remettre. Alors, merci à tous, et puis je vous souhaite une bonne fin de voyage.
Bien, à l'instant de quitter les quais, on se dirige vers la gare Saint-Jean. Je vous propose maintenant un petit exercice, et je le propose vraiment à tous les voyageurs de ce tram. C'est tout simplement de nous décrire le paysage que vous voyez autour de vous, de part et d'autre de ce tram.
À droite, je vois un mur, je vois une face à droite.
Bonjour,
il y a Marcel, on traverse une
terre,
j'aperçois la gare.
Un garage, un hôtel.
Il y a des cyclistes, un hôtel. Un hôtel,
un voyage. Il semble bien, il décrive un paysage.
C'est
aussi l'heure, alors que l'auto-école qui est juste à côté, plutôt des bandeaux roses, rouges, orangés.
On prend les terrasses des gens et beaucoup de bateaux qui regardent le train, comme les vaches regardent le train.
Prendre le train, c'est quand même plus intéressant que de passer son permis de conduire, évidemment, dans cette auto-école que j'ai à mes côtés.
Ah, il y a un relais vélo.
Sommelier, mais voilà.
Hollandais.
Oui, hollandais, comme vous dites, oui. Tout à fait, le style.
Merci à tous de ce grand moment collectif de description du paysage. On va essayer de poursuivre cette conversation. On va pas tarder à arriver à la gare Saint-Jean. Peut-être juste en deux mots, Guy Lenoir, sur la nécessité, on vient de voir ces deux rives, là sur les quais, rive droite, rive gauche, des clivages, sur la culture comme moyen finalement d'être, de créer un pont entre ces divergences. Guy Lenoir.
Ça permet justement l'an dernier au nouvel établissement qui s'appelle le Rocher de Palmer, qui est un magnifique lieu d'action et d'innovation artistique, d'être drainé par le tram et de pouvoir relier effectivement toute une population à la fois de jeunes et de moins jeunes qui viennent de Lormont, de Senon, de Floirac, qui descendent sur le centre-ville, et puis réciproquement les jeunes de Pessac qui remontent, qui traversent la ville et qui vont au Rocher de Palmer pour assister à des concerts de très très grande qualité aujourd'hui, et on en est très très heureux. Voilà, le tram a amené cette fluidité d'un public qui a envie de bouger, et ça c'est très très important par rapport à ce qui se passait autrefois où la venue tiers était en convoi, etc. quoi.
Alors aux visiteurs qui viennent de nous rejoindre, nous accueillons maintenant la société Éventail. Ils sont en t-shirt bleu. Je vous demande de les applaudir très fort. La société Éventail.
Votre sponsor. Donc, bienvenue dans notre plateforme d'expérimentation tonique, aujourd'hui délocalisée au cœur de la société, et dans laquelle nous nous situons entre rupture et héritage, et dans l'open souplesse à 100%. Chers sponsorisés, nous tenons à vous dire que vous n'êtes pas un client, évidemment, vous êtes un ami. Car chez
Éventail,
nous recyclons le chacun de vous. D'ailleurs,
Éventail
vous remercie personnellement, Xavier, car grâce à vous, nous sommes désormais l'urbaine jouvence qui entreprend pour entreprendre le développement de chacun.
Car
chez
Éventail,
nous sommes persuadés qu'il faut que ça change. Il faut redonner de la biche, il faut que ça zouille.
Mais c'est quoi la biche ?
La biche, vous voulez que nous vous réexpliquions ce qu'est la biche ?
Mais oui !
Alors, d'habitude, il faut redonner de l'élan. Et nous, chez Éventail, nous sommes 100% parité. Donc, nous avons décidé que l'élan deviendrait féminin. Et nous redonnons de la biche pour que ça zouille ! Bravo ! Bravo ! Éventail !
Un léger courant d'air frais !
Alors, que s'agit-il de faire maintenant, généreux sponsor ?
La société
Éventail,
grâce à ses process qui intègrent les savoirs
partagés,
reste à la pointe des modèles
alternatifs.
Éventail stimule les interactions dans les modes de partage, assurant ainsi une explosion du
vivre ensemble,
notre périmètre d'action des systèmes
mobiles.
Le défi révolutionner les espaces pour toucher à tous les champs
audacieux.
La proximité avec les décideurs permet une démarche
collaborative
engagé avec les différents acteurs du territoire. Par ailleurs, la mixité à l'œuvre dans nos plateformes d'expérimentation garantit une optimisation du
participatif
avec
Éventail.
Plus tard, c'est déjà
demain.
Merci à notre généreux sponsor.
Voilà, en fait, on va. Alors, on propose un petit moment de lecture de nos slogans favoris. Donc, je vais les lancer, participatifs. Je les lance et vous les dites après moi. Enfin, et avec tous les collaborateurs Éventail.
Ouais. Oui.
Attention, c'est parti. Éventail pilote la chronobiologie de chacun.
Éventail pilote la chronobiologie de chacun.
Éventail rééquilibre les déséquilibres.
Éventail rééquilibre les déséquilibres.
Éventail interacte des territoires d'expérimentation atypiques.
Éventail interacte des territoires d'expérimentation atypiques.
Éventail associe la parole et conjugue la réflexion pour redonner de la biche.
Éventail associe la parole et conjugue la réflexion pour redonner de la biche.
Éventail optimise le processus relationnel et touche à tous les champs.
Éventail optimise le processus relationnel et touche à tous les champs.
Éventail interacte au niveau individuel et collectif.
Éventail interacte au niveau individuel et collectif.
Éventail revient vers toi.
Éventail revient vers toi.
Avec
Éventail.
Plus tard, c'est déjà
demain.
Merci.
Merci. Merci à notre généreux sponsor pour cette intervention. Vous êtes tous évidemment convaincus par la nouvelle économie créative qu'ils viennent de nous présenter. On va pas tarder à arriver maintenant à Bègles, au Terre-Neuve plus exactement. Je voudrais proposer à Ghislaine Girard de nous inviter un petit peu. Qu'est-ce qu'on va trouver, où est-ce qu'on va arriver exactement à Terre-Neuve? Qu'est-ce que c'est Terre-Neuve?
Terre-Neuve, c'est d'abord l'ancienne cité des Loubard-Béglés. Quand on parlait autrefois d'Yves Farge, c'était vraiment la zone dure de Bègles. Et elle était connue un peu partout dans Bordeaux. Attention, Yves Farge débarque, garez vos filles. Et puis bon, bah, ça a été toute une tradition. Bègles, après, c'était aussi l'image de la banlieue rouge. Cette cité Yves Farge, elle a été une de ces constructions de la mairie communiste de Bègles dans les années 60. Alors elle est ce qu'elle est, avec ben, ses défauts, mais aussi un certain confort de vivre qu'il y a eu à l'époque. Et puis Yves Farge, c'est devenu maintenant le quartier des Terre-Neuves, comme pour gommer une histoire. Et là, on revient à une autre histoire de Bègles, notre histoire avec la morue, avec les morutiers, les armateurs qui avaient leurs belles maisons, les quelques belles maisons de Bègles. On revient sur ce terrain.
Alors Ghislaine, tu nous parlais à l'instant de la cité Yves Farge, on vient de quitter tout à l'heure la cité Le Grand Parc. Est-ce que tu vois un parallèle, un point commun entre ces deux cités?
Moi, j'aurais envie de dire non, parce que pour moi, historiquement, c'est deux cités issues de deux histoires différentes. Mais en même temps, la finalité, oui, c'est que c'est un habitat qui a vieilli, avec des populations qui ont vieilli, mais qui, toutes les deux, à une époque, ont représenté vraiment une amélioration et un changement important.
Nous voici arrivés à Terre-Neuve. J'invite tous les voyageurs à descendre de ce tram. On descend. Changement de son, changement d'espace. Nous voici arrivés maintenant à Terre-Neuve. J'imagine qu'un petit comité d'accueil doit être là pour nous accueillir. Je ne sais pas s'il faut partir par là ou dans l'autre sens, dans ce sens-là.
Par le boulevard, alors.
Alors, je voudrais peut-être proposer à nos descripteurs de paysages, qui ne doivent pas être loin, de nous raconter un petit peu ce qu'on voit sur ces merveilleuses pancartes-là, et qui décrivent le futur urbanistique de la ville.
Déplacement doux, certification habitat et environnement, parcs et jardins avec arbres et plantes d'origine locale, des logements pour tous à louer et à acheter, un commerce de proximité, des services publics de quartier, un quartier à vivre, une nouvelle façon d'habiter, la créativité, la qualité architecturale, 40 résidences, 7000 logements. C'est le nouveau cœur du quartier. À la place des Terre-Neuve. Les déplacements facilités avec la nouvelle ligne C du tramway et ses deux stations, des architectures très
autonomes, avec des jardins apparemment qui sont prévus sur le toit des habitations. Qu'est-ce qu'il peut y avoir marqué? Il y a marqué encore un quartier créatif, mais ça je crois que je l'ai déjà dit.
Alors, on a avec nous pour nous accueillir à Bègles, et plus exactement à Terre-Neuve, Manon. Salut Manon.
Bonjour.
Alors Manon, tu es bien connue à Bègles, oui, notamment par ce bar, restaurant, lieu de discussion qui s'appelle Le Poulailler. Tu nous en dis deux mots?
Le Poulailler, c'est un salon de thé, on va dire, atypique, dans lequel peuvent se rassembler régulièrement des mamans, des militants, des bénévoles associatifs, des usagers de centres sociaux, des musiciens, des artistes, on a des expositions, on a beaucoup de choses qui s'y passent. C'est un lieu de rencontre, de lien social, voilà.
Alors, on voit ici autour de nous fleurir des constructions qui sont encore au stade béton, pas encore tout à fait finies, mais on a l'impression que ça pousse comme des champignons. Il y a un gros enjeu urbanistique ici à Terre-Neuve.
Énorme. ça pousse autant que ça tombe. On avait juste en face de nous, là où on est, trois tours, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. On était sur une cité d'habitat social dont Ghislaine a dû vous parler un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, on est sur un quartier en devenir qui, effectivement, pousse un peu de droite et de gauche, qui aujourd'hui... Plutôt de gauche, qui pousse effectivement un petit peu en mosaïque et qui aujourd'hui n'a pas plus d'âme, peut-être pas encore. Je ne sais pas, mais voilà, il y a beaucoup de projets autour de ce quartier. C'est difficilement lisible pour l'instant. On est optimiste pour le futur du quartier, mais voilà, on est plutôt pour l'instant sur un quartier pour aller vite à deux vitesses, où il reste des anciens, des cités sur les bâtiments qui restent à réhabiliter, et puis beaucoup de choses novatrices, d'entreprises audiovisuelles, de nouveaux bâtiments avec des programmes mixtes, donc des propriétaires qui vont côtoyer ces très anciens d'Yves Farge. Et pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité d'identité sur ce lieu.
Manon, ton métier, c'est sociologue. Alors peut-être sur cette nouvelle sociologie béglaise, qui va venir, selon toi, habiter ce lieu ?
Ça fait partie des questions qu'on se pose. La volonté...
C'est des nouveaux bobos ?
Oh, en partie, oui. Oui, la volonté, c'est de faire ce qu'on appelle la grande et belle mixité sociale. Aujourd'hui et pour le moment, on va avoir, dans mon sentiment, des gens qui viennent ici d'eux-mêmes vivre ici, font un choix de vivre à proximité de Bordeaux, pour moi, c'est une intuition, font le choix de vivre à proximité de Bordeaux et de la gare davantage qu'un choix de venir vivre à Bègles. C'est-à-dire ils sont sur une interface territoriale qui est intéressante, mais je ne suis pas certaine que ce soit une quête d'identité communale qui les amène ici. Je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà. Pour l'instant, c'est vrai que c'est assez illisible. Voilà.
Alors, on va passer dans quelques mètres sur le site qui était occupé il y a quelques jours à peine par le festival de Terre-Neuve. Je ne sais pas si parmi ceux qui nous suivent et qui nous écoutent en ce moment figurent des membres ou des organisateurs du festival de Terre-Neuve. Peut-être est-ce qu'ils sont un petit peu plus loin, qu'on va les retrouver. Manon ?
Ça, je ne sais pas.
Alors, sinon, peut-être à leur place, nous dire quelques mots de ce festival.
Alors, le festival de Terre-Neuve, je ne vais pas parler pour eux. C'est un festival organisé par des gens qui, historiquement, sont issus de la mouvance et du corps associatif qui tournait et gravitait autour du groupe Noir Désir, qui ont une culture militante qui les a amenés effectivement à vouloir faire un festival de musique engagé sur un site emblématique qui est celui des Terre-Neuve, qui reste encore en partie une friche et qui est hautement symbolique, sur lequel il se passe beaucoup de choses, y compris en termes de musique électronique au niveau du cabinet musical du docteur Larsen. Donc c'est vraiment un pôle audiovisuel, on va dire, qui est aussi en devenir et sur lequel s'est greffé cet électron libre qui est l'association de mémoire Lâcher les sangliers. Les sangliers sont lâchés.
Les sangliers sont lâchés, j'imagine, une référence à Noir Désir et peut-être à Brigitte Fontaine aussi. Vient de nous rejoindre Farida. Bonjour Farida.
Bonjour.
Alors je crois que tu as travaillé avec Jacques Fleury.
En effet.
Sur un projet autour de la cité Yves Farge.
On est actuellement à la cité Yves Farge et d'ailleurs j'habitais juste là. Et la cité Yves Farge, c'était des hommes qui vivaient ensemble, de différentes cultures, de différentes nationalités. Enfin, moi, je suis venue en 82. Et j'ai vu que c'était des personnes qui étaient ensemble. Il y a des gens qui voient les choses négatives. Moi, je vois plutôt les choses positives chez les hommes. C'est des gens qui étaient... C'est comme un village. Vous descendez de votre tour, vous aviez un problème avec votre vélo, trois personnes venaient, puis regardaient si le vélo était gonflé, si on avait besoin d'aide. Ça, c'était la cité Yves Farge. C'est vrai qu'il y a eu des choses, on ne peut pas dire négatives, mais il n'y a pas que ça. Il y a des hommes qui ont vécu ici, il y a des femmes, il y a des enfants. C'est toute une histoire, la cité Yves Farge. Bègles, c'est une histoire. Il faut savoir que le premier maire de Bègles était quand même un prêtre, un ecclésiastique. Je crois que c'était Ducamp. Il y a eu cette histoire où il y a eu des maires successifs. Ben, il a commencé par des bourgeois qui sont venus ici, en villégiature, se promener. Après, il y a eu les radis qui ont... qu'on fait le
c'est quoi les radis?
C'était des plantations par les personnes qui habitaient ici. Il y avait beaucoup de jardins.
Je crois même que certaines personnes mal intentionnées appellent parfois les béglés des radis.
Oui, ben, il y avait...
Pas sympa.
Il y avait un... Non, moi, je trouve que c'était bon. Moi, je trouve pas que c'est pas sympa parce que ça montrait la culture de ce pays, de ce village, de cette ville. Et moi, pour moi, Bègle, c'est une histoire d'amour. Hein. Quand je suis venue en 82, je venais de la Savoie, je venais de la montagne. Donc je ne connaissais pas les cités, je ne connaissais pas ça. Et je me suis aperçue qu'on parle beaucoup de cités et de choses. Et il y a toutes, il y a des gens, il y a des émotions, il y a des gens en colère, c'est vrai, comme dans tout pays. Mais dans les gens bien aussi, il y a des gens en colère. Hein.
De ce que tu me dis, Farida, j'ai l'impression qu'il y a une identité béglaise très forte. Ici, on n'est pas à Bordeaux.
Non, on n'est pas à Bordeaux. Il y a vraiment une identité. Quand vous parlez aux personnes âgées, moi je suis aide à domicile et je parle aux personnes âgées, ils me racontaient qu'ils étaient un groupe de personnes. Ils allaient danser ensemble. Et quand ils disaient on quitte notre pays, on quitte Bègle, ils disaient qu'ils allaient à ce nom, ce n'était pas leur quartier, c'était ailleurs. C'était l'étranger, ce nom. Et moi, ça, j'avais trouvé ça différent venant d'un lieu où tout le monde était une grande ville et tout ça. Là, non, c'était vraiment la ville, le village.
Alors viens nous accueillir aussi ici à Terre-Neuve, à notre sortie du tram Cherso. Bonjour Cher.
Bonjour.
Et Jean-Paul aussi, on t'a attendu là-bas, ouais, mais en tout cas content de te trouver ici.
Ah, mais oui, mais je suis chez moi là. Hein.
Cher, on était en train de parler de la sociologie ici, de cette nouvelle cité de Terre-Neuve, du renouvellement sans doute de sa population. Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu le ressens? Cherso.
Moi, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que je ne l'ai pas étudié. Hein. Je n'ai pas étudié le quartier. Je sais seulement qu'il y a eu un renouvellement, que certains ont eu à habiter dans de nouveaux appartements. D'autres ont vu leur appartement rénové. Après, on a vu effectivement arriver des entreprises culturelles qui sont installées, plus l'école, comment on appelle ça encore, l'école de la Croix-Rouge. Des tours qui ont explosé. Je pense qu'il faudrait plutôt demander aux habitants comment ils vivent cela. On a l'impression, quand on regarde un peu, qu'il y a effectivement une forme de renouvellement, peut-être démographique. Mais j'aimerais bien savoir, par exemple, est-ce que tout le monde, tous les habitants ont été contents de leur nouveau logement ou des logements rénovés. Mais je sais qu'il y a effectivement une nouvelle arrivée d'entreprises, que ce quartier-là, qui s'appelait Ifarge, peut-être va finir par s'appeler Terre-Neuve, parce que c'est lié un peu à un renouvellement, mais bon, voilà. C'est...
Merci Cher, on a avec nous aussi Michel. Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors sur cette évolution du quartier, sur ce qui l'attend, peut-être même sur ce qui le menace, je crois que tu voulais nous parler de Euro-Atlantique, une opération qui va sûrement concerner
Alors,
ce lieu.
Euro-Atlantique, c'est une des opérations, parce que il y a Euro-Atlantique et puis il y a d'autres chantiers, il y a d'autres transformations d'urbanisme. Alors menace, tu disais menace, je crois que ça dépend de si les habitants arrive à se mobiliser, quoi. Et moi, je fais partie, avec beaucoup d'autres, de structures locales qui essaient d'encourager et de travailler avec les habitants pour qu'ils entrent et qu'ils forcent aussi peut-être le dialogue de ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui concertation, mais qui est, pour ce qu'on en voit, pour l'instant tout au moins, beaucoup d'effets d'annonce, mais qui ne se traduit pas.
De la manière dont tu en parles, j'ai l'impression que tu n'y crois guère.
Si, j'y crois, mais disons que entre les promesses et les actes concrets, il y a quand même beaucoup, quoi. Il y a quand même beaucoup il y a beaucoup d'écarts, quoi.
Jean-Paul est aussi avec nous. Viens près du micro, Jean-Paul. Salut.
Oui, bonjour. Bonjour Marseille, notamment. Et puis bonjour les copains et copines du Grand Parc aussi.
Sur cette nécessité de résistance, de résister, d'être ensemble, de solidarité, hein, c'est un peu les propos qu'on vient d'entendre là face à cette évolution, à ces mutations urbaines qui guettent Terre-Neuve particulièrement et la ville de Bègle, la boboïsation, sur cette résistance.
Oui, résidence, résistance, ouais, mais c'est vrai que, tu vois, tu fais le parallèle, mais c'est vrai que ça s'appelait Yves Farge avant, la résidence qu'il y avait là. Et alors, t'en vois encore les restes, tu vois, parce que ça, c'était des terrains pas vagues, hein, des terrains qui étaient gazonnés, tout ça. T'avais le stade du Hourquet qui a été fait pour la résidence, là. T'avais même une église, pourtant, en ville communiste, t'avais une église. Il faut dire qu'autour d'Yves Farge, il y avait quand même de l'espace. Il y avait des arbres, il y avait. Bon, aujourd'hui, c'est minéral, hein, le quartier. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, les arbres, ils vont peut-être pousser, mais fait pour le moment, ils ne sont pas là. On a fait vite des logements. On en a un peu parlé, là, des logements, hein, où les gens, ils se retrouvent. Il y a des familles qui sont nombreuses, hein, notamment. Peut-être aussi des regroupements de générations. Et qui se retrouvent un peu à l'étroit dans les nouveaux appartements, qui d'ailleurs ont pris un bon coup sur le loyer, hein. Mais à la hausse, hein, pas à la baisse. Hein. Donc, si tu veux, le résultat, eh bien, c'est sûrement, bon, à la limite, c'est plus joli peut-être, bien qu'il y avait des ornements, hein, dans la cité Yves Farge, t'avais une fresque de Nelson Mandela, notamment. Mais le maire a été sympa, il a demandé la permission de la démolir, tu vois, parce qu'il aurait pu le faire sans rien demander. C'était les jeunesses communistes qui l'avaient fait. Bon, le quartier, t'avais, enfin, dans cette cité notamment, t'avais des associations, t'avais les JC, t'avais Jeunesse Universelle. Donc ça bouillonnait, quoi. Il y avait, et je ne sais pas si on retrouve la même vie aujourd'hui. Enfin, on ne la retrouve pas, c'est clair. Hein. Je pose la question, mais on ne la retrouve pas. Peut-être qu'à la longue, hein, il y aura quelque chose qui, je ne sais pas, ça remplacera. Mais pour le moment, on ne trouve pas quelque chose d'équivalent, hein. C'est clair.
Merci à toi Jean-Paul, merci. Et merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pour ce Travelling qui sera diffusé sur les ondes de Radio Grenouille et sur les ondes de Radio Campus Bordeaux. Merci à tous de nous avoir accompagnés. La soirée n'est pas terminée puisqu'on va la continuer au poulailler avec une écoute de la création sonore de Christophe Modica. Sans doute quelque chose à boire, sans doute quelque chose à manger et sans doute beaucoup de choses à discuter et à partager ensemble. Cher So,
je vais faire juste une pub. Le samedi au Hall des Douves, à midi, je fais une conférence musicale justement sur le thème de démocratie culturelle et démocratisation culturelle. Comme j'avais animé le débat, j'avais aussi des choses à dire là-dessus. Donc vous êtes conviés à midi au Hall des Douves sur une conférence conférence musicale autour de ça.
Rendez-vous est pris. Merci à Tony Regnault, perchman de cette émission, et à toute l'équipe qui m'a accompagné pour la réaliser. Et on va terminer avec une description de paysage.
Bien un terrain sportif où les enfants jouent. Il y a des mamies avec des foulards et juste en face de moi, il y a des anciennes sécheries qui sont en train d'être aménagées.
Je suis complètement concentrée sur les oiseaux qui sont en train de s'envoler autour des travaux et de la grue qui est en face de moi.
C'est des couleurs un peu passées. Moi, j'aurais laissé ça comme ça. C'est, voilà, je pense que ça va bientôt devenir les maisons écologiques, le centre de l'économie créative.
Thank you.